France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Depuis des années maintenant, la France traverse la période la plus répressive de son histoire récente en temps de paix. C'est une phrase de Didier Fassin. Le pénal et la prison semblent comme saturer l'espace judiciaire. Même un journal comme Libération, né au contact étroit du groupe Information Prison de Michel Foucault au début des années 1970, choisit de titrer « L'atôle » pour se réjouir de la condamnation récente de Nicolas Sarkozy, plutôt que de souligner les raisons pour lesquelles cet ancien chef d'État a été condamné. Pourtant, et c'est ce paradoxe que documente la sociologue Delphine Griveaux à travers une enquête aussi solide qu'originale, pourtant donc, dans le même moment, de nouvelles pratiques ont vu le jour, diverses et encore marginales, qui toutes participent de ce qu'on appelle la justice restaurative. De quoi s'agit-il au juste? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, Delphine Griveaux est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Et l'on poursuivra du côté pénal et du côté carcéral avec un écrivain qui s'intéresse à ce monde judiciaire depuis longtemps maintenant, Guillaume Poix, qui a publié, voici quelques mois, aux éditions Vertical Perpétuité, qui est un livre de littérature qui nous entraîne du côté de ces surveillants de prison, un autre pan de l'univers judiciaire qu'on explorera en sa compagnie. Mais tout de suite, Delphine Griveaux, donc bonjour, vous êtes sociologue.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse chargée de recherche au Fonds National de la Recherche Scientifique, c'est le CNRS belge à l'université de Louvain-la-Neuve, et vous publiez aux éditions La Découverte, Réparer la justice, une enquête sur les pratiques restauratives en France, une enquête qui est issue de votre thèse de doctorat, une enquête au fond concomitante de l'essor de ce que vous étudiez, c'est-à-dire quand vous avez commencé à travailler, c'était vraiment tout récent, ça continuer de se développer un peu pendant votre travail et vous nous donnez à voir cette réalité très marginale encore, on va s'en rendre compte, mais importante de la justice restaurative. Alors d'abord, peut-être on peut s'arrêter sur le mot, sur l'expression, parce que on dit pas tout à fait de la même façon en Belgique par exemple, où vous travaillez, ou au Canada, mais au fond c'est un peu les mêmes choses qui sont désignées, mais ces choses qui sont désignées, elles sont variées, elles recoupent des tas de choses assez différentes en fait, selon qu'elles soient prises en charge ou pas par l'institution judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire, justice restaurative?
D'abord, effectivement, on entend justice réparatrice, donc ça va être plus utilisé au Québec. Justice restauratrice, ça c'est là où je vis, à Bruxelles, en Belgique francophone. Et en France, eh ben, on dit justice restaurative. Bon, je vais pas m'étaler sur les
petites... En anglais, il n'y a qu'un mot.
Et en anglais, il n'y a qu'un mot, restorative justice. Et effectivement, toutes ces acceptions, elles, renvoient exactement à la même chose. À quoi ça renvoie? Ça renvoie à la fois un ensemble de discours et un ensemble de pratiques. Les discours, c'est des discours qui ont été forgés dans les années 90, en Amérique du Nord, notamment sous la plume d'un criminologue ménonite qui s'appelle Howard Zaire, et qui en fait propose de changer le regard sur le crime. Changer le regard, ça veut dire arrêter de considérer que la justice est une affaire de professionnels, mais considérer que la justice est une affaire de toutes et tous. Ça veut dire également considérer que le crime n'est pas juste une infraction à une loi, mais aussi un tort commis d'un individu sur un autre individu. Ça veut dire aussi essayer de s'éloigner d'une logique de punition qui est tournée vers le passé pour aller vers une logique de réparation qui serait plutôt tournée vers l'avenir. Donc il y a tout cet ensemble de discours.
Ça, ce sont les discours.
Ça, ce sont les discours qui sont des discours soit réformistes, voire parfois révolutionnaires de la justice pénale.
Qui vont jusqu'à la suppression de la prison pour les plus...
Pour les plus anciens, mais on reviendra peut-être là-dessus, parce que c'est intéressant, effectivement, il y a une trajectoire de dévoiement, en fait, des ambitions initiales de la justice restaurative, à mesure qu'elles intègrent les systèmes pénaux nationaux. Et pour finir un peu sur ce que c'est, pour donner une image aux auditeurs, auditrices de ce que c'est, on peut peut-être mentionner quelques pratiques. Les plus répandues en France, ce sont les médiations restauratives et les rencontres détenues-victimes. Alors, les médiations restauratives, il faut imaginer tout simplement un auteur qui rencontre sa victime ou une victime qui rencontre son auteur. Tout ça étant volontaire, accompagné par des animateurs, animatrices formés pour ça. Et tout ça étant volontaire, hein, c'est basé sur le volontariat. Et puis, on peut aussi dire une dernière chose, c'est que c'est supplémentaire à la procédure pénale. Ça n'affecte pas la procédure pénale.
Donc ça, on verra les relations compliquées qu'il y a entre les deux.
Bien sûr.
On va rentrer dans le détail de votre enquête,
Delphine Griveaux. Je m'avance un petit peu.
Mais Delphine Griveaux, vous avez, en fait, vous dites dans le livre, au détour comme ça, du début de votre livre, que ce qui vous a amené à travailler sur le sujet, c'est d'abord le fait d'avoir observé ce qu'on appelle, c'est encore une autre expression, la justice transitionnelle dans des contextes étrangers. C'est-à-dire, on le sait, par exemple, avec les Gachassa au Rwanda, ou dans des endroits où il y a eu des génocides, ou des crimes de guerre, ou des violences très de masse, en fait, se sont mis en place des dispositifs en Afrique du Sud post-apartheid, des dispositifs de justice transitionnelle. Et c'est de là que vous êtes parti au fond pour commencer à réfléchir à cette justice restaurative.
Oui, on peut remonter un tout petit peu plus dans le temps, du coup, parce que je vous parlais des années 90. En fait, il faut remonter aux années 60, où il y a un vaste mouvement de remise en cause du droit pénal et de la justice pénale, qui est porté par un certain nombre de mouvements. Il y a à la fois des universitaires, mais aussi des mouvements sociaux, pacifistes, antiracistes, féministes. Il y a aussi des mouvements qui viennent des acteurs judiciaires eux-mêmes, comme l'Alternative Dispute Resolution en Amérique du Nord, qui promeut des modes de résolution des conflits alternatifs, donc médiation, etc. Et tous ces mouvements, en fait, vont faire naître, enfin, ce mouvement de remise en cause du droit pénal vont faire naître plusieurs formes de justice. La justice transitionnelle est peut-être la première d'entre elles. Elle circule dans les pays dits en sortie de conflit et vont circuler aussi d'autres modèles, la justice restaurative, puis la justice transformatrice, plutôt dans les démocraties dites consolidées et en paix. Et c'est vrai que moi, j'entre par la porte de la justice transitionnelle et c'est très marrant parce qu'en fait, j'étais une convaincue absolue de la justice transitionnelle quand j'étais jeune. J'ai fait des études, non pas de recherche, mais de sciences politiques pour devenir une...
Pour travailler dans ce domaine.
Pour travailler dans l'aide internationale, pour travailler dans ce domaine. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en Côte d'Ivoire, effectivement, à Abidjan, auprès de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation de Côte d'Ivoire. Et c'est à ce moment-là que... je me suis pris quelques claques, on va dire, puisqu'en fait, c'est capturé par des logiques politiques qui sont très structurantes et qui sont des logiques nationales qui vont instrumentaliser, si je le dis à gros traits, l'aide internationale, qui elle-même aussi est empreinte de standards qu'elle a du mal à faire bouger. Et donc moi, j'étais assistante de programme auprès de cette commission et c'est là que je croise le terme justice réparatrice pour la première fois, puisqu'on avait un des piliers de notre action, c'était d'aller rencontrer les victimes, les écouter et de proposer des mesures de réparation.
Alors je le disais tout à l'heure, vous avez commencé à travailler, à mener cette enquête qui est devenue ce livre, hein, Réparer la justice, au moment où les choses vraiment démarraient, parce que au fond il y a une loi 2014, c'est l'inscription dans le droit de certains dispositifs, et vous avez pu les observer quelques années après leur démarrage, alors qu'ils ne concernaient que quelques dizaines de professionnels impliqués. À quoi ça ressemblait au début? Qui sont ces pionniers au fond que j'imagine vous avez dû rencontrer?
Ouais, au début, donc c'est vrai que moi je reviens en France, en fait on est en 2014. Et donc je croise, je cherche un sujet de thèse avec Sandrine Lefranc, qui est une politiste qui travaille sur la justice transitionnelle. Et je croise en fait, au détour de mes lectures, la justice restaurative dans le code de procédure pénale en France, ça venait de passer. Et c'est vrai que je me disais, mais qu'est-ce que ça fait là? Enfin, je vous avais cité Didier Fassin et c'était tout à fait à propos. Moi, je voyais la France et la justice pénale française plutôt comme étant animée de logiques répressives, de gestion des flux, de rationalisation, etc.
Oui, c'est son livre Punir qui paraît notamment dans ces années-là.
Exactement, qui paraît en 2017, je crois. C'est vrai que si on regarde le livre Punir de Didier Fassin et puis la justice restaurative de l'autre côté, on te demande un peu où on est. Il y a de quoi perdre un petit peu la tête.
Et donc vous décidez d'aller voir de plus près à quoi ça ressemble, ce que font ces gens, qui ils sont, à un moment de tout début de professionnalisation et d'institutionnalisation de ces mesures.
Et donc je décide d'aller voir de plus près. Et c'est vrai qu'au tout début, bah, j'étais toute seule sur le terrain. Enfin, personne connaissait ce que c'était. On était deux doctorantes à travailler là-dessus. Une doctorante en droit qui s'appelle Caterina Soulo, qui a soutenu Aix-Marseille, et moi qui étais en sciences sociales. Et on se baladait dans les cénacles de la justice restaurative, les événements, les colloques, les formations, les réunions de travail, etc. Et au début, c'était, je me souviens, 2014, entre 2014 et 2018, il comptait 74 bénéficiaires, donc en 4 ans, de mesures de justice restaurative. Donc c'est extrêmement
peu. Si on rapporte ça au nombre de condamnations, sans parler du nombre de plaintes.
Oui, on rapporte ça aux centaines de milliers de plaintes et aux millions de faits qui sont commis chaque année. Clairement, c'était pas grand-chose, mais bon an mal an, ça s'est développé. En 2017, il y a eu une première circulaire d'application de la justice restaurative qui a été signée par le garde des Sceaux de l'époque, qui était Jean-Jacques Urvoas. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu un premier mouvement d'accélération. Donc les pratiques se sont multipliées, les formations à destination des professionnels se sont multipliées. Parce qu'on l'a pas dit, mais il faut peut-être préciser que les personnes qui mettent en œuvre ces mesures, ce sont des professionnels judiciaires et parajudiciaires. Donc d'un côté, le plus souvent, une conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, pour le dire.
Ce sont des fonctionnaires du ministère de la Justice, en l'occurrence.
Exactement. Et de l'autre côté, un ou une salariée, voire bénévole, de l'aide aux victimes.
Et tout ça participe, vous le montrez bien dans votre livre, d'un service public de la justice qui conviendrait de ne pas limiter au fond aux fonctionnaires du ministère de la justice. C'est très important parce que ces acteurs qui vont encadrer ces procédures, ces mesures, sont les plus demandeurs. Au fond, ils sont bien plus demandeurs que les personnes directement concernées, c'est-à-dire aussi bien les victimes que ceux que vous appelez les auteurs dans le livre, en fait, et que ces professionnels appellent comme ça.
Oui, je les appelle comme ça, effectivement, parce que c'est la terminologie consacrée dans le milieu de la justice restaurative. Oui, c'était un résultat hyper intéressant de la thèse, c'est-à-dire que moi, j'arrivais en pensant que j'allais m'intéresser aux auteurs et aux victimes, et en fait, très vite, j'ai compris que les premiers bénéficiaires de ces mesures, c'était les professionnels eux-mêmes.
Mais pourquoi ?
Bonne question, parce que, tout simplement, ils y trouvaient un sens, un élan, une motivation supplémentaire à faire leur travail. Et c'est là où il y a des échos qui sont assez forts.
Dans des conditions où ils exercent leur métier, qui sont des conditions difficiles, de manque de moyens, de pression du temps, etc.
Exactement. Dans des conditions... Donc quand on entre, c'est marrant, on a en plus, il y a un observatoire de la formation à l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Donc on a plein de chiffres, on a plein d'idées de pourquoi les gens entrent dans ce métier. Le métier de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, par exemple. Et ce qu'on attend, c'est la relation humaine, en fait. C'est d'être au contact des gens, de les aider, voilà. Et c'est pas ce qui se passe dans la réalité, parce qu'en fait, dans la réalité, on nous demande de remplir des grilles d'évaluation standardisées, on nous demande de gérer les flux, on a 15 minutes par personne à consacrer, parce qu'on a 120 dossiers de personnes suivies, alors que la norme européenne est à 40 ou 60. Enfin, c'est un métier qui était porteur du sens de la justice avec un grand J à la base et qui devient, en fait, dans le quotidien, très difficile à vivre pour beaucoup d'agents de l'administration pénitentiaire. Et ça fait écho aussi au livre de Guillaume Poix, dont on parlera dans la seconde partie. Quand la justice restaurative arrive et qu'on leur propose de la mettre en œuvre, effectivement, un certain nombre, pas tous, évidemment, mais un certain nombre s'en saisissent, quitte à étirer leur temps de travail bénévolement, en fait, le plus souvent, parce qu'on leur dit « Allez-y, feu vert, si vous voulez faire de la justice restaurative, vous pouvez y aller. Par contre, vous n'aurez pas de charge de dossier. C'est en plus de votre charge de travail quotidienne. »
Alors, donc, il y a cette demande forte, on comprend mieux pourquoi maintenant. Comment ça se traduit concrètement? Quelles sont les premières mesures, les premiers dispositifs mis en place? Vous avez pu les observer, c'est une part importante de votre enquête, qui a procédé par entretien, bien sûr, mais aussi par observation, Delphine Griveaux.
Oui, les toutes premières mesures, c'était avant même l'intégration de la justice restaurative dans le code de procédure pénale en 2014. En 2010 et en 2012, il y avait eu des premières... expérimentations à la maison centrale de Poissy. Donc il y avait eu une rencontre détenue victime pour viol et agression sexuelle et une autre pour homicide et tentative d'homicide.
Alors là, peut-être vous pourriez préciser la nature de ces rencontres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre face à face des gens concernés par les mêmes faits, mais des gens concernés par la même catégorie de faits, en quelque sorte.
Exactement. Tout à l'heure, j'ai précisé un petit peu ce qu'était la médiation restaurative, mais je n'ai pas précisé ce qu'étaient les rencontres détenues victimes. Et effectivement, donc, il y a toujours un binôme d'animateurs, d'animatrices qui va préparer les gens et animer les rencontres. Mais là, on a un groupe d'auteurs d'un côté, un groupe de victimes de l'autre. Ils ne se connaissent pas au préalable, mais ils sont liés par le même type d'infraction. Donc là, on a parlé de viol, agression sexuelle, d'homicide et tentative d'homicide. Ça peut être théoriquement tout type de délit et de crime. Seulement, on voit dans les faits que c'est que pour des atteintes aux personnes.
C'est la violence sur les personnes, en fait.
Exactement.
On ne voit pas ça pour du braquage de banque, pour du financement illégal de campagne électorale.
Non, ce serait,
mais pourquoi
ce
pas.
Serait intéressant. Mais pourquoi pas? Mais en fait, pourquoi pas? Parce que braquage, il va y avoir, mais quand il va y avoir violence, par exemple. Parce que la justice restaurative, elle vient répondre à une logique qui n'est pas une logique indemnitaire, qui est celle que font valoir au premier plan les victimes quand elles sont victimes d'atteinte aux biens. Donc, quand on est victime d'atteinte aux biens, on va faire jouer l'assurance, on est dans cette logique-là. Quand on est victime d'atteinte aux personnes, c'est autre chose qui se joue, et c'est à cette autre chose-là en particulier que peut répondre la justice restaurative.
Donc ça a commencé plutôt par ce type de rencontres, c'est-à-dire des groupes de gens qui sont en prison pour les mêmes raisons, et puis des victimes qui ont subi les mêmes choses avec cette médiation. C'est ensuite seulement qu'on est arrivé vers ce que vous aviez mentionné en premier, c'est-à-dire la rencontre éventuelle entre quelqu'un qui a commis un crime, par exemple, et sa victime. Je dis éventuel parce qu'en fait, beaucoup de ces processus ne parviennent pas au terme souhaité ou pas, d'ailleurs, parce que ce terme n'est pas nécessairement un objectif, ou plus exactement, c'est une possibilité.
Ouais, la bascule, elle se fait à peu près en 2019, et c'est pas inintéressant d'ailleurs de voir cette bascule entre le fait de faire majoritairement des rencontres groupales entre auteurs et victimes, et le fait d'en venir aujourd'hui à être à 90% de médiation restaurative dans les mesures qui sont mises.
Donc médiation restaurative, on rappelle, c'est les gens concernés par la même affaire.
Un auteur et sa victime, ou inversement. C'est pas inintéressant parce qu'en fait, les rencontres auteurs-victimes étaient extrêmement chronophages. Il faut préparer beaucoup plus de gens, ça prend un temps infini. Et donc, ça rappelle ce contexte dans lequel on met en œuvre les mesures, qui est un contexte où il y a déjà une pression très très forte sur le temps pour les agents qui les mettent en œuvre. Donc, une bascule vers les médiations restauratives. Et oui, vous faites bien de le rappeler, cette rencontre, elle est éventuelle. En fait, on estime que... on a fait quelques calculs pour essayer de comprendre quel pourcentage, en fait, de processus de médiation restaurative allait vraiment à une rencontre, un face-à-face entre auteur et victime. Et c'est autour des 10%. Donc, c'est assez faible. Mais qu'est-ce que ça... Et ça, c'était assez surprenant aussi, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un échec.
Exactement. C'est pas nécessairement un échec. Et là, il y a une espèce de fausses évidences ou d'idées fausses, voilà, d'idées reçues qui est véhiculée autour de la justice restaurative, comme quoi c'est forcément ce face-à-face. Mais en fait, c'est d'abord un face-à-face entre une victime ou un auteur et un binôme d'animateur d'animatrice. C'est d'abord ce face-à-face-là qui se déroule, et c'est presque, et c'est très souvent en fait, le plus important. Parce que c'est cette main tendue de la part de ce binôme, que ce soit envers la victime ou envers l'auteur, qui va d'abord sortir la personne de l'isolement, qui va d'abord lui offrir un espace pour se décharger de ses souffrances, pour être reconnu, pour être cru immédiatement. La parole n'est jamais remise en question. Et donc, elle est d'abord là, finalement, la rencontre.
Et ça vaut aussi bien pour les victimes que pour les auteurs.
Tout à fait.
Il faut préciser également, et ça nous amène à la question du lien entre ces procédures et le droit pénal, qu'en fait, ce type de procédure peut être mis en œuvre alors même qu'il n'y a pas de procédure judiciaire. Simplement, le dépôt d'une plainte suffit pour ouvrir la possibilité d'une médiation de ce type.
Tout à fait. Et il y a même eu un espèce de pas en avant sur ce point-là en 2021 par le garde des Sceaux, qui était Éric Dupond-Moretti, qui a invité les magistrats, les procureurs de la République, en fait, là, en l'occurrence, à proposer, quand c'était possible, des médiations restauratives, des mesures restauratives, quand il y a eu classement sans suite. Donc là, on était en plein dans le contexte de MeToo inceste à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, et c'est pas un hasard, hein, pour ces violences et pour d'ailleurs de manière générale les violences sexuelles, il y a un taux de classement sans suite qui est extrêmement élevé. Et du coup, il n'y a pas de réponse en fait.
Il y a un problème pénale. De traitement par la justice du nombre conséquent de ces plaintes.
Il y a 83% de classement sans suite pour les violences, pour les viols et agressions sexuelles.
Ouais. Et donc là, avec ces médiations, s'ouvre autre chose.
Exactement. S'ouvre un espace qui n'existait pas avant.
Et ça, vous avez pu l'observer. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cet nouvel espace de justice qui ne vient pas ni se substituer, ni compléter, au fond, une procédure judiciaire qui n'aura pas lieu, mais qui vient ouvrir la possibilité d'être entendu, parce que je crois que c'est d'abord, sans doute, avant tout ça, qui compte.
Exactement. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un espace qui est déjà complètement à rebours de ce qui se passe durant la procédure, lorsqu'elle, effectivement, se déroule, parce que souvent, la procédure, elle s'arrête assez vite. Et donc, un espace à rebours de la justice pénale, dans le sens où, là, on est écouté, on est accueilli, on est accompagné, et on est cru. Donc il n'y a pas, imaginons qu'il y ait eu procédure, qu'on ne soit pas forcément dans le cadre d'un classement sans suite, il n'y a pas toute cette épreuve qui est le contradictoire, on va sans cesse être dans une logique de soupçon, de remise en cause de la parole des victimes. Il n'y a pas cette logique de penser à la place des gens. Donc là, on va mettre la personne au centre, finalement.
Et puis il y a une autre langue, j'allais dire, un autre type de droit, c'est-à-dire qu'il y a la prise en compte des personnes, il y a le fait de laisser de la place aux émotions et de ne pas tenir à distance en objectivant les faits à travers des concepts ou des catégories juridiques qui ne sont pas celles à travers lesquelles les gens se remémorent ou racontent ou partagent ce qui leur est arrivé en fait.
Ouais, à l'objectivité entre gros guillemets du droit, on substitue la subjectivité des personnes. C'est un autre référentiel, c'est complètement un autre référentiel. C'est plus le référentiel du droit, c'est le référentiel du dialogue, de l'expression subjective des personnes. Et en ça, on est dans un renforcement total par rapport à la logique de la justice pénale, effectivement.
Alors là, on est dans un cas relativement simple dans la relation entre justice restaurative et justice pénale, puisqu'on a pris l'exemple d'un classement sans suite, par exemple, où il n'y a pas de procédure pénale, où il peut y avoir une procédure restaurative. Mais parfois, les deux coexistent, cohabitent. Et là, ça pose davantage de problèmes, parce que normalement, tout ce qui se dit ou s'opère dans cette procédure restaurative ne doit pas interférer avec la procédure pénale. Néanmoins, j'imagine que les acteurs ne se comportent pas de la même façon. Je ne sais pas ce qu'il en est des professionnels de la justice. Comment ça se passe dans ces cas-là ?
Mais ça ne doit pas interférer théoriquement, et donc théoriquement, tout ce qui est dit au cours d'une mesure de justice restaurative ne peut pas avoir valeur d'aveu judiciaire.
Ça, c'est ce que dit la loi.
Ça, c'est ce que disent les textes. On sait en sociologie du droit et de la justice qu'il y a les textes et puis les pratiques dans le monde social. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il y a des réticences qui sont très très fortes de la part des magistrats qui veulent garder le contrôle de la procédure. Donc en fait, l'immense majorité des mesures restauratives vont se dérouler en post-sententiel, on dit, donc après que la sentence ait été prononcée, donc le plus souvent au stade de l'exécution des peines, que ça soit en milieu fermé, donc en prison, ou en milieu ouvert, donc avec des gens qui sont sous contrôle judiciaire.
Alors ça fait même pas 10 ans que tout ça existe. Enfin, la loi, ça fait plus de 10 ans, mais le temps que les circulaires soient prises et que les procédures démarrent, ça fait moins de 10 ans. Aujourd'hui, c'est une réalité très marginale de la justice, vous le rappeliez. Néanmoins, ça existe. Quelle sorte de bilan on peut faire ? Vous avez choisi de titrer un de vos chapitres « Supplément d'âme » pour qualifier cette justice restaurative. C'est un peu sévère, mais ça vous semble correspondre à la réalité aujourd'hui, en tout cas.
C'est un peu sévère, mais ça dépend comment on l'entend. C'est-à-dire que c'est un supplément d'âme, c'est pas forcément une mauvaise chose. d'être un supplément d'âme. On peut le prendre dans les deux sens, en fait. On peut se dire, ah, ce n'est qu'un supplément d'âme. On peut se dire, ah, mais c'est un supplément d'âme. Et pour moi, c'est les deux, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai toujours deux parties de moi, à l'intérieur de moi, qui d'un côté bascule, qui à un moment bascule d'un côté et à un autre moment de l'autre. Donc c'est un supplément d'âme pour les personnels judiciaires et parajudiciaires, ça on l'a bien compris. Pour les personnes qui participent, auteurs et victimes aussi. Et c'est un supplément d'âme pour la justice pénale parce que finalement, elle va quand même essayer de répondre à des attentes de la part des citoyens, citoyennes qui sont très fortes et qui sont des attentes de considération, d'écoute, d'humanité vis-à-vis de la justice. C'est des attentes qu'on peut juger comme étant démesurément fortes, mais elles ont été objectivées par les sciences sociales. Donc je pense notamment au livre dirigé par Cécile Vigour qui s'appelle « La justice en examen ». Et ces attentes, elles existent et la justice pénale choisit quand même d'ouvrir un espace effectivement marginal, relativement inoffensif, puisque ça ne va pas remettre en cause les logiques structurantes de l'institution judiciaire. Mais cet espace, il existe et il offre effectivement cette considération, cette écoute, ce soin que n'offre pas la procédure pénale. Et en ce sens-là, ça permet aussi, en fait, c'est un peu paradoxal, puisque la justice restaurative aimerait bien transformer la justice pénale, mais donc ça permet aussi à l'institution pénale, finalement, de se pérenniser, de continuer son entreprise de rationalisation et de modernisation, comme si de rien n'était un truc.
Vous voulez dire qu'il y a des formes de récupération de la critique, comme
tout à fait.
Dirait Luc Boltanski, mais F. Chiapello. Mais en fait, vous avez commencé par rappeler les discours parfois très ambitieux de transformation de la justice qui sont au fondement de cette conception de la justice restaurative. Puis on est passé à sa mise en œuvre. Il semble qu'il y ait un gouffre en fait entre l'ambition de ces discours et puis la réalité marginale des pratiques. Est-ce que toutefois, ça vous semble, ces pratiques-là vous semblent un socle sur lequel pourrait aujourd'hui s'appuyer de nouveaux discours qui reprendraient l'objectif de transformer plus en profondeur en fait le système pénal? Est-ce que vous voyez ça, cette sorte de mobilisation du côté des acteurs professionnels en particulier?
Oui, je ne sais pas s'ils sont nouveaux, parce qu'en fait, ils étaient déjà portés par le mouvement pour la médiation dans les années 70-80. Mais ils sont sans cesse réactivés par, donc c'était le mouvement pour la médiation dans ces années-là, puis dans les années 2000, c'était le mouvement pour la justice restaurative. Les deux ont été, de manière différente, absorbés et digérés par le système pénal. Et aujourd'hui, on va retrouver ce discours à travers une troisième forme de justice qui s'appelle la justice transformatrice, qui là se déroule exclusivement hors du cadre de l'institution judiciaire, plutôt pour l'instant en milieu militant. Et donc qui reprend cette ambition de faire justice en prenant soin de la victime, en responsabilisant l'auteur et en intégrant le plus de personnes touchées possible pour essayer de transformer à la fois des collectifs et la société. Et c'est vrai qu'il y a un écart du point de vue de la justice restaurative qui est énorme, puisque qu'on parle de la médiation de la justice restaurative ou de la justice transformatrice, il y a cette ambition. Vous allez lire dans tous les textes, on va transformer les individus pour transformer les rapports sociaux, pour transformer la société. Souvent, on parle de restaurer l'harmonie sociale dans les textes de la justice restaurative. Ça, c'est la petite empreinte religieuse aussi qu'il y a derrière et dont on n'a pas parlé. Et en fait, on ne sait pas comment s'articulent ces ambitions. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas exactement à mettre le doigt, même si je pense que méthodologiquement, c'est possible, entre ces changements individuels, s'ils existent, s'ils sont durables, s'ils percolent dans d'autres sphères de vie de la personne qui a profité d'un dispositif de justice restaurative. On ne sait pas comment ça va s'articuler avec des changements à l'échelle d'un groupe, à l'échelle d'une société, etc. Les tenants de la justice restaurative vont vous dire que c'est par contamination. Donc d'individu en individu, on va réussir à transformer la société. Et bon, sociologiquement, c'est pas exactement comme ça que ça marche. On a des normes sociales.
Il y a des politiques publiques aussi.
Il y a des institutions, il y a des normes, voilà. Donc c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais pourquoi pas prendre au sérieux quand même cette ambition et essayer de comprendre ce qui peut se passer et à l'échelle individuelle, puisqu'on voit quand même, en tout cas sur le temps des dispositifs et un petit peu après, qu'il y a des effets positifs. Pourquoi pas voilà, prendre au sérieux cette ambition et essayer de voir jusqu'à où ces effets positifs vont, que ce soit pour les individus ou pour leurs proches.
Alors cette enquête de sociologie de la justice est originale et passionnante parce qu'elle s'attache à des phénomènes nouveaux et jusque-là peu documentés, mais à tel point que au fond les figures les plus habituelles du monde de la justice sont absentes. Je me suis fait la réflexion à un moment en vous lisant que il n'y avait pas de magistrat, il n'y avait pas d'avocat dans votre livre. Vous faites un livre de sociologie de la justice et en fait ces acteurs ne sont pas présents dans ces dispositifs. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec les uns et les autres?
Oui, j'en ai rencontré certains. Après, j'ai quand même un biais assez important, c'est-à-dire que ceux que je rencontre, c'est ceux que je rencontre dans des événements dédiés à la justice restaurative.
Donc il faut l'effort de venir, c'est que ça les intéresse.
S'ils font l'effort de venir, c'est que ça les fait réfléchir. Et c'est là où on peut dire qu'il y a quand même une certaine force, hein, on en parlait tout à l'heure, de ce discours. Il y a quand même une force instituante sur l'imaginaire de ces discours. Ça pose des questions. Ce sont des espaces de remise en question de l'institution judiciaire. On entrevoit d'autres manières de faire justice. Ça existe, c'est là. C'est popularisé par le cinéma, c'est popularisé par la presse, à certains moments médiatiques. Voilà.
Ça existe.
Mais du coup, j'ai oublié le début de la question.
Non, mais on a bien compris que, sans doute, c'est une toute petite partie de ces magistrats et de ces avocats
oui,
qui s'intéressent
les magistrats et les avocats.
À la question, parce que leur rôle peut être assez important dans l'évolution.
En fait, les avocats sont parfois intéressés, mais à titre bénévole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compatibilité entre le fait de faire de la justice restaurative gratuitement et le métier d'avocat. Donc, on peut, à titre bénévole, s'engager dans la justice restaurative et certains... C'est pas du tout un modèle économique.
Contrairement à la médiation.
Et pour les magistrats, c'est simplement qu'ils n'ont pas un rôle, on leur a pas donné un rôle, en fait, dans cette forme de justice-là.
Merci beaucoup Delphine Griveaux, restez avec nous. On accueille dans un instant l'écrivain Guillaume Poix pour parler de Perpétuité, le livre qu'il a publié il y a quelques semaines aux éditions La Découverte, mais c'est après un extrait du nouvel album de The Mountain Goats, Cold Night.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau. Yourself go in the current, only rise and fall as the angles allow. Finally make a break for the surface, breathe in the sweet air of the here and now. Wake up in the arms of the earth, fully present at the second birth. Well, the first thing you learn is how strong you can be if you have to. And the next thing you learn is how cold it can get at night. Let the waves break where they have to break. Let the people make ready to approach the throne. Two are gonna stumble along the way. One is gonna go up alone. Fire's gathering on a distant peak. Let me get some sleep before I speak. Well, the first thing you learn is how far you can go with no gas in the tank. And the next thing you learn is how cold it can get at night. Light the rope, but this much I know. The first thing you learn will be the last thing to go. As close as we can to shore.
Nobody thought to carry a compass. It's not the 19th century anymore. On the third day you said you felt sick. I could hear the clock tick. Well, the first thing you learn is that there's always a clock ticking somewhere. And the next thing you learn is how cold it can get at night. Well, the first thing you learn is how strong you can be if you have to. So strong. And the next thing you learn is how cold it can get at night.
The next thing you learn is how cold it can get at night.
And the next thing you learn is how cold it can get at night.
De réparer la justice à perpétuité. C'est le titre des deux livres dont on parle aujourd'hui. Le premier de Delphine Griveaux, cette enquête sur la justice restaurative dont on a parlé dans la première partie de l'émission. Et perpétuité, c'est le titre du livre que Guillaume Poix vous faites paraître en cette rentrée littéraire. Delphine Griveaux nous disait que les premières expériences, au fond, de justice restaurative ont eu lieu dans une centrale à Poissy, avant même que la loi entre en vigueur dans les années 2010. C'était une rencontre entre détenus et auteurs à l'intérieur d'une prison. Finalement, vous auriez pu, d'une certaine façon, vous y trouver où y loger vos personnages, Guillaume Poix.
Oui, c'est vrai. Précisément, ce qui m'a amené à l'univers carcéral, c'est une formation en justice restaurative que j'avais suivie avec l'association France Victime en 2021, avec Robert Cario, dont Delphine parle beaucoup dans son livre, qui a été à l'initiative, d'une certaine manière, de l'instauration de la justice restaurative en France. Et c'est vrai que l'univers carcéral me paraissait pas être l'endroit, a priori, spontanément, le plus approprié à ces nouvelles formes de justice. Et pourtant, en me documentant sur ces nouvelles pratiques, il me semblait qu'il y avait effectivement une importance du regard à porter sur ce monde clos, ce monde fermé, dont on a peu, finalement, on sait peu de choses, même si on croit savoir beaucoup de choses, on le fantasme beaucoup. Donc j'aurais tout à fait pu y être à cette occasion.
D'autant que vous aussi, vous n'êtes pas sociologue, vous êtes écrivain, mais vous aussi, vous documentez toujours beaucoup avant d'écrire un livre. Et d'ailleurs, il y a une forme d'homologie de position entre vos deux positions. Delphine Griveaux dit à un endroit dans son livre qu'elle est coincée entre le mur et la table dans des tout petits espaces où ces gens sont en train de se parler et elle d'essayer d'être a fly on the wall, comme on dit en anglais. Et vous faites la même chose, au fond, dans les prisons où vous regardez ceux qui regardent, vous dites.
Oui, exactement. C'est vrai que j'ai fait aussi un travail de terrain comme Delphine en essayant d'être à la fois invisible et en même temps absolument regardant. C'était dans une maison d'arrêt du sud de la France, moi, que j'ai eu l'occasion de faire une immersion pendant 3 ans. Donc j'étais sur les coursives auprès des travailleurs, auprès des surveillants, mais aussi auprès des agents, que ce soit les CEPIP ou alors la chef d'établissement, les différents directeurs de détention, enfin à peu près tous les métiers qui irriguent et travaillent dans une maison d'arrêt. Et effectivement, c'est une position assez particulière parce qu'il faut à la fois être dans une grande générosité du regard, de l'écoute, neutraliser son jugement, neutraliser ses stéréotypes, les préjugés qu'on peut avoir sur ce milieu et ne pas cesser de faire des liens, d'être dans une pratique analytique un peu sur le vif. Et ça, je trouve que c'est une position très stimulante qui m'a souvent été renvoyée par les personnes que j'observais comme une pratique qui les fait penser eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y a comme une qualité de regard ou d'écoute qui permet d'être un intermédiaire sans être un écran, sans faire un filtre, ni même être un facilitateur. C'est-à-dire que parfois on peut avoir l'impression que parce qu'on est là, on altère quelque chose de l'expérience qu'on observe. Et en même temps, cette expérience, parce qu'on est là, elle se pense en train de se faire. Et je crois qu'effectivement, nos positions, elles peuvent en fait apporter quelque chose d'important auprès des personnes qu'on observe.
Alors, vous partagez ces positions, mais ce que vous faites de vos observations est très différent. Dans un cas, on a un livre de sociologie avec Delphine Griveaux, et vous en faites un texte littéraire. Comment s'opère le passage de ces personnes que vous observez, que ce soit les gardiens de prison ou les détenus, le passage de ces personnes vers les personnages que vous choisissez de créer, Guillaume Poix?
C'est un long travail de maturation, et c'est un travail d'oubli, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'une fois que la matière est collectée, une fois qu'elle est archivée, parce que moi j'ai accumulé une somme documentaire de travail énorme puisque j'étais très ignorant. Et une fois que cette matière-là s'est accumulée, il a fallu que je l'oublie aussi et que je laisse parler uniquement les souvenirs sensationnels et émotifs que j'avais des personnes pour pouvoir construire les silhouettes, aller au-delà précisément des silhouettes, les remplir de chair, les remplir de souvenirs, de mémoire. Parfois apporter des choses qui n'ont rien à voir avec ces personnes que j'ai rencontrées, mais des choses qui peuvent venir d'expériences autres ou plus biographiques, pour essayer de proposer précisément des densités de vie, des énergies qui permettent au lecteur d'opérer un effet miroir. Parce que quand on est observateur, il me semble qu'on est tout le temps dans cette question du miroir, c'est-à-dire comment fait cette personne, comment est-ce que je ferais moi si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je ressens. Et j'ai l'impression que la fiction, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Une fois que quelque chose du réel m'est parvenu de manière très brutale, très massive, il faut laisser décanter pour que pour que tout à coup le personnage se cabre par rapport au réel, qu'il puisse s'inventer, qu'il puisse échapper à ce que moi j'ai envie de faire. Et donc c'est un savant mélange d'improvisation et de je sais pas comment dire, c'est comme une alchimie très particulière.
Delphine Griveaux, vous aussi, après tout, vous avez choisi d'ouvrir votre livre par un personnage, en tous les cas par une personne que vous avez rencontrée, mais que vous avez choisi, dont vous avez choisi de restituer l'expérience, pas en première personne, mais vous avez choisi de commencer par une incarnation, au fond, de ce que vous avez observé.
Oui, et je ne suis pas à la première personne, et en même temps, j'apparais dès la deuxième ou troisième phrase, je crois, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire semblant de ne pas être là. On est là. Et en même temps, on est censé être neutre, invisible, voilà, tous ces...
Oui, on bannit et on accepte d'écrire « je », y compris dans des travaux de recherche.
Ouais. Mais en même temps, il faut incarner les choses. Que ce soit de la littérature ou des sciences sociales, on part de ces incarnations-là. Il faut y revenir, il faut les restituer. Et c'est vrai qu'en ça, la démarche, elle est quand même assez similaire. Moi, je suis hyper impressionnée quand je vous entends parler de ce travail d'enquête qui ferait pas lire n'importe quel anthropologue. Honnêtement, c'est quand même un engagement exceptionnel. Et en fait, j'ai l'impression que même au-delà de cette démarche ou cette position qui nous rassemble, il y a aussi chez vous une envie de produire de la connaissance et en fait, finalement, qu'est-ce qui est différent entre nos deux ouvrages? C'est peut-être les standards.
La forme des livres.
Les standards auxquels on a voulu répondre.
Oui, c'est très juste. Enfin, merci, parce que effectivement, moi, je pense que les émotions que produisent la fiction génèrent de la connaissance. Je pense qu'on apprend le monde, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, qu'on apprend le monde, qu'on apprend à se situer, à se positionner, à s'engager précisément dans le monde à partir des fictions, et que loin d'opposer le réel et la fiction, qu'on pourrait presque nous opposer, vous partez du réel et moi ce serait comme si je vagabondais à partir de la fiction ou vers la fiction. Moi je pense qu'à partir du moment où on oppose ces deux polarités, qu'on considère que le réel c'est l'antithèse de la fiction, on se trompe. Et je pense qu'on cherche exactement la même chose mais avec des moyens différents, des formes différentes. Et moi je postule absolument que avoir accès à ce qu'un surveillant se remémore au moment où il est en train d'accoler son œil à l'œilleton, la crainte émotionnelle qu'il a par rapport à un incident qui a pu lui parvenir, raconter ça dans le corps et donner accès à cette vibration de chair très particulière, nous permet, nous, lecteurs, de comprendre en profondeur ce geste très ambigu du surveillant, de la profanation de l'intimité de quelqu'un, en même temps qu'un geste qui est aussi un geste de soin, qui porte un paradoxe en lui-même. Et il me semble que la fiction, parce qu'elle est l'ambivalence même, nous donne accès à tout ça.
Guillaume Poix, vous avez travaillé sur la justice avant ce livre, Perpétuité. Vous avez notamment écrit le spectacle de Lorraine de Sagazan, Léviathan, qui a été créé au Festival d'Avignon, non pas l'été dernier, mais celui d'avant, et qui, depuis cette époque, tourne toujours en France, accompagné de nombreux débats qui sont, je crois, très importants pour Lorraine de Sagazan aussi, et tous ceux et celles qui l'accompagnent. Au fond, ce que vous donnez à voir dans Léviathan, qui nous renvoie aux comparutions immédiates, cette forme de justice très rapide, en lisant Delphine Griveaux, je me disais que c'était au fond le contraire de ces mesures de justice restaurative. C'est-à-dire que il y a aucune place pour les émotions, tout est complètement objectivé et donc des espaces-temps qui sont très 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 serrés.
Oui, c'est vraiment la passion punitive que décrit Fassin et qui, à mon avis, est pas étrangère. Delphine, vous essayez tout à l'heure de chercher pourquoi la justice restaurative ne serait pas au fond plus qu'un supplément d'âme. Mais je pense qu'aussi, effectivement, il y a une telle lutte avec cette passion punitive qui nous gangrène que les comparutions immédiates qui ont lieu tous les jours en France, qui sont très pourvoyeuses en incarcération et qui génèrent une surpopulation massive en maison d'arrêt, sont l'exemple même de notre incapacité à penser des dispositifs de justice par-delà la question de la punition. Et effectivement, dans Léviathan, on s'intéressait à ça. Qu'est-ce que c'est que cette justice de classe expéditive qu'on a un temps envisagé de répandre aux mineurs? Qu'est-ce que c'est que cette fiction de penser qu'on peut juger quelqu'un en 15 minutes sans enquête, qu'on juge non pas son fait mais son parcours délinquentiel? En général, c'est souvent ça qui est puisqu'il y a beaucoup de récidives en comparution immédiate. Est-ce que la justice, le visage que donne à voir la justice, puisque ce sont des comparutions publiques, est-ce que ce visage-là est vraiment celui auquel nous pensons tous quand nous pensons à la justice en France? C'est-à-dire qu'il me semble que les comparutions immédiates, elles viennent nous mettre de manière très cinglante, au même titre que ce qui se passe en maison d'arrêt aujourd'hui, et dans des conditions très dégradées, elles nous mettent face à notre hypocrisie, à tous et toutes, et je m'inclus absolument dedans, c'est-à-dire le désir d'une justice qui quand même punit, et en même temps une incapacité à penser les conditions dans lesquelles cette justice se rend, ce qui génère une forme de séduction politique vis-à-vis de propositions ou qui ne sont pas, à mon avis, à la hauteur de l'espérance que, par exemple, la justice restaurative ferait lever. Donc, effectivement, je trouve que on a un rapport très schizophrénique à la justice en France, je trouve.
Je mentionnais les débats autour de ce spectacle qui ont mobilisé beaucoup de professionnels, mais aussi de citoyens, de citoyennes qui s'intéressent à ça. Est-ce que, précisément, lors de ces moments, j'imagine que vous avez participé à certains, cette question de la justice restaurative, son existence et son démarrage suscitent des espoirs ou des projections?
Ben l'espoir, il est énorme et le livre de Delphine est très important pour ça parce que précisément c'est un livre qui montre que, alors même que l'espoir est énorme et que les solutions semblent passionnantes et permettent pour quand elles ont lieu de faire baisser la récidive, ou il y a des études qui peuvent montrer que la justice restaurative peut avoir un impact positif, pour autant on n'arrive pas à le mettre en œuvre de manière beaucoup plus large. Dans le spectacle de Léviathan, ce qui était surtout l'acte restauratif du spectacle, on pourrait dire, puisqu'on a conçu avec Lorraine de Sagazan ce spectacle aussi comme un moment de justice restaurative, d'une certaine manière, puisqu'on a associé un des acteurs, est un ancien détenu, qui est passé par un certain nombre de comparutions immédiates et qui vient raconter, d'une certaine manière, initier le spectateur à cette justice expéditive, et qui vient proposer par l'espace de la fiction et l'espace du théâtre un face-à-face, ce qui est précisément le principe de la justice restaurative, ce face-à-face entre un médiateur et une victime, ou un médiateur et un auteur, ou un auteur et une victime. Et il me semble que il nous appartenait aussi, du point de vue artistique, du point de vue théâtral, de proposer un dispositif qui ne soit pas récupéré par la justice pénale, qui soit totalement indépendant du dispositif judiciaire, mais qui puisse éveiller peut-être des vocations à la justice restaurative, et en tout cas essayer de raconter que la justice restaurative, en fait, elle est partout, elle devrait être partout, elle est dans chacune de nos interactions, puisque nous sommes tous liés par des conflits.
Léviathan, j'imagine que le spectacle tourne.
Oui, à Marseille,
encore
cette semaine, à la Criée.
Et Perpétuité, là, le livre est sorti il y a quelques semaines, il est bien sûr en librairie aux éditions Verticales. On trouve les références sur la page de La Suite dans les idées, et celle aussi du livre de Delphine Griveaux, Réparer la justice.
France Culture, La Suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Une actualité qui va nous faire rester en prison un peu, quelques temps, puisque on va parler de Fernand Braudel, et on va parler d'un livre, Conférence de la captivité, qui est publié par les éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, avec Christian Grataloup. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris Cité, et vous présentez cet ouvrage, et vous êtes là aussi pour c'est une introduction de Subramanian qui le présente. Vous êtes là aussi pour parler d'un d'un grand colloque consacré à Fernand Braudel, puisqu'on fête les 40 ans de sa disparition. Et donc, cette publication intervient. J'ironisais juste un petit peu, parce que le texte de Sourma Ménane commence par rappeler un certain nombre de grands classiques qui ont été écrits en prison, certes en un peu plus longtemps que des livres à paraître dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, mais des très grands classiques, évidemment on pense à Gramsci, à Oscar Wilde, à beaucoup d'auteurs, mais Braudel a prononcé ses conférences devant des co-détenus en fait, où il a poursuivi ce qui était son activité d'enseignement à l'époque à l'école pratique des hautes études. Il venait juste en fait d'être recruté dans cette école au moment où il s'est retrouvé pendant la guerre en captivité. Il a commencé ses conférences en 1942 et on peut aujourd'hui les lire. Il y a un grand colloque international, Christian Grataloup, les 27 et 28 novembre à la maison organisée par la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme en hommage à Braudel, dont on sait le rôle décisif qu'il a eu pour cette institution. Comment vous avez conçu cette manifestation que vous allez ouvrir ?
Bien, le 27 novembre 1985, Fernand Braudel est décédé brusquement, donc il y a 40 ans. Donc le colloque a choisi évidemment cette date pour le rappeler. Il s'est passé beaucoup de choses et la volonté a été de faire un colloque effectivement international. Donc Subramanian, qui est un homme lui-même d'histoire globale, hein, puisque c'est un Indien, mais qui a fait sa thèse à Paris, qui enseigne actuellement aux États-Unis après avoir été professeur au Collège de France, enfin, qui a aussi enseigné en Grande-Bretagne. Donc c'est lui-même un personnage symbolique.
Donc c'est lui qui a fait la préface de ce livre dont
alors il a fait l'avant-propos.
Vous avez fait la postface.
Voilà, j'ai fait l'avant. Moi j'ai fait la postface. Lui il a fait l'avant-propos. La préface pardon. Il y a un avant-propos qui est fait par Maurice Aymard, qui est un peu le fils spirituel et qui montre, qui explique l'itinéraire de ce qui n'avait pas été publié du vivant de Fernand Braudel. Il s'agit effectivement d'une œuvre très mineure du point de vue historiographique, mais qui est très intéressante, puisque c'est des notes qui avaient été prises par des auditeurs lors des conférences qu'il avait prononcées dans les deux Oflag où il avait été interné, à Mayence d'abord, puis dans un Oflag plus répressif parce que c'était une forte tête. À partir de ces notes, il les avait réécrits avec l'intention d'en faire un livre. Et puis, finalement, c'était trop daté dans son propre parcours. Donc, finalement, c'est des choses que, comme Maurice Aymard l'explique, ont été récupérées après sa mort et publiées.
Mais il faut se féliciter que ça paraisse aujourd'hui, parce que, comme vous le dites, c'est pas du point de vue de l'historiographie, mais du point de vue de la trajectoire intellectuelle et politique, c'est un document.
Alors, c'est un document qui est célèbre dans l'historiographie parce que il y a un côté lettre de prison, justement, sachant bien que, par rapport à ce que vous venez d'aborder, être prisonnier de guerre, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, que d'être prisonnier après avoir été condamné
dans une centrale ou dans une maison d'arrêt.
C'est pas le même statut du tout et c'est pas le même vécu, même si ça peut parfois être aussi dur, hein, que mon père avait été à passer une bonne partie de sa captivité à Ravarou, qui était un camp, on ne peut pas dire d'extermination, mais l'objectif était d'éliminer les prisonniers récalcitrants, qui étaient actuellement, le site est en Ukraine. C'était, dans le triangle de la mort des grands camps, c'était quelque chose qui était bien plus dur, effectivement, que la plupart des internements et que ce qu'a connu Braudel. Braudel a pu écrire, par exemple. Hein, il a pu constamment écrire, avoir des cahiers qui étaient évidemment supervisés par ses gardiens.
Enfin bon, il n'avait pas accès aux sources, enfin pour un historien. Et puis, il avait devant lui un public qui n'était pas le public qu'il avait d'habitude en face de lui.
Oui, pour les conférences, oui. Et alors, c'est d'ailleurs intéressant parce que ça joue un rôle dans sa manière de penser et de présenter les choses. Parce que Braudel est connu pour être un homme qui essaye d'articuler les grandes structures, ce qu'il appelle le temps long, avec l'événement, avec un temps intermédiaire, une triple temporalité, pour prendre son vocabulaire. Et il commence, à l'inverse de tous ses écrits, il commence par l'événement. C'est pour le minimiser. Alors, il faut bien imaginer ce qu'étaient ces prisonniers, qui étaient dans l'ensemble, puisque c'était un no-flag, hein, donc des officiers, des gens plutôt cultivés. Ils étaient sonnés par la défaite de 1940. Et le travail d'histoire que leur raconte Braudel, c'est de minimiser la dimension événementielle pour dire non, les structures longues, c'est autre chose, et elles nous donnent de l'espoir. Donc c'était, il y avait un côté, alors j'ose pas dire réparateur, il y avait un côté pour les aider à tenir le coup. Mais c'était pas si simple que ça d'ailleurs, parce que dans le premier Reflag à Mayence, ils étaient beaucoup travaillés par le régime de Vichy qui essayait d'associer et de sortir quelques cadres, et Braudel était en rupture, donc d'où son passage ensuite dans un autre Reflag plus sévère. Mais dans tous les cas, il a eu par exemple accès à des bibliothèques universitaires, ce qui évidemment des conditions de détention un peu particulière, même si bon, il était dans les conditions de l'Allemagne de 1940-45, ce qui n'était pas très réjouissant.
Alors ça, c'est l'histoire mesure du monde, qui fera l'objet d'ailleurs d'un temps lors de ce colloque qui s'ouvre à la FMSH, pardon. Vous l'ouvrez, vous, évidemment, avec votre œil, celui du géo-historien, c'est-à-dire qu'on sait que Fernand Braudel est un historien, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est évidemment de rapprocher ça de la dimension spatiale qui est considérable pour Braudel. Et je pense que c'est ce à quoi vous vous êtes employé, Christian.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai surtout montré des cartes. Ce que je ne peux pas faire à la radio. Mais je parle souvent de cartes à la radio. Et Braudel utilise beaucoup de cartes, même s'il ne les fait pas lui-même. Hein. Donc c'était en gros l'objet de mon propos. Mais surtout sur les types de visions de l'espace que ça peut donner. Et il a introduit une réflexion spatiale extrêmement importante. Il a initié, et ça l'a d'ailleurs beaucoup dépassé, en réutilisant le mot géohistoire. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en dehors du milieu historien. Ou dans l'enseignement, oui. Mais c'est un mot qui a connu une fortune plutôt à l'international. D'ailleurs, Braudel, ce matin, c'est une chose qui nous a tous frappé dans les débats.
L'ouverture du colloque, oui.
Des gens lisent Braudel et s'intéressent à Braudel au Japon, au Brésil. Au Brésil, il a enseigné, donc il y a des traces. Mais aux États-Unis ou en Afrique. Mais en France, finalement, il est un peu oublié.
Alors en France, il y a quand même des historiens en ce moment, au moment même où on parle, il y a un temps de ce colloque consacré à la Méditerranée, évidemment,
oui, bien sûr.
Le maître-livre de Braudel, avec notamment un chercheur français, Guillaume Calafat, par exemple.
Bien sûr. Oui, ben la Méditerranée est incontournable, et c'était normal qu'on s'intéresse à la pérennité de l'étude de l'ensemble méditerranéen après Braudel. Là, c'est devenu incontournable. Les autres tables rondes sont plutôt sur l'élargissement et pour voir le
voilà,
modèle.
De la Méditerranée, on passe à l'océan. Voilà.
Et on passe au monde.
Au monde.
L'aspect global, l'histoire globale. Mais le Braudel, d'ailleurs, effectivement, le premier grand œuvre de Braudel, c'est la Méditerranée, publié en 49, c'est sa thèse en fait, hein, mais qu'il a écrit en prison, sans notes, ce qui est un exploit historiographique. Ça prouve qu'il avait une très grande mémoire, mais aussi une capacité de réflexion très forte. Et le deuxième grand œuvre, c'est Civilisation matérielle, qui est en trois tomes, qu'il a publié en 1979. Généralement, on rajoute un troisième grand œuvre, mais qui est inachevé, qui est L'identité de la France, mais bon, pour lequel généralement on a un petit peu moins de considération.
Oui, il y a une réception un peu plus critique de ce volume-là. Et Braudel n'était pas là pour le défendre.
Et oui,
pour
c'est
le défendre.
Inachevé, donc on ne va pas discuter. Tandis que Civilisation matérielle, c'est quelque chose qui est l'ouverture au monde. D'ailleurs, un des volumes s'appelle Le temps du monde.
Vous rappeliez que Fernand Braudel avait disparu il y a 40 ans de manière soudaine. Au fond, ce qui s'est passé depuis 40 ans, du point de vue des sujets qui l'intéressaient, c'est beaucoup de choses qui ont à voir avec l'histoire globale et notamment l'histoire. L'histoire connectée, l'histoire à part égale, pour reprendre une autre expression de Romain Bertrand par exemple, on ne peut qu'imaginer qu'il aurait été très stimulé par tous ces nouveaux mouvements qui traversent l'histoire aujourd'hui.
Oui, il est un peu le grand-père de l'histoire globale, c'est un peu ainsi qu'on le vit et qu'il est vécu aux États-Unis, puisque c'est un des rares historiens français bien connus aux États-Unis. Donc il aurait certainement embrayé, peut-être d'une manière critique, il avait la dent dure, sur les développements de l'histoire mondiale d'abord, c'est un terme plutôt d'histoire économique au départ, dans les années 80, puis d'histoire globale, au moment où on s'intéresse à la mondialisation, qui a eu du mal à pénétrer en France. J'ai été un des introducteurs, mais dans l'ensemble, les historiens ont plutôt résisté. C'est les économistes ou les géographes qui l'ont introduit. Et puis, ce qui fait que les historiens français sont beaucoup intéressés à l'histoire connectée, dont l'œuvre de départ de Subramanian, sur Vasco de Gama, est typiquement un exemple. C'est-à-dire, on s'intéresse aux connecteurs, aux gens qui passent d'un monde à un autre, qui font intervenir des choses d'un
monde à l'interface. Oui.
Voilà. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on est évidemment dans un contexte postcolonial très critique sur tout ce qu'on appelait naguère grande découverte, une expression obsolète. Donc, on a effectivement des types de présentation de l'analyse globale du monde, et qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, où on est dans un moment de reflux critique vis-à-vis de tout ce qui est mondialisation, où on est dans une montée des souverainismes très fort, la réflexion sur ce qu'est le temps long de la mondialisation, c'est presque un devoir civique.
Merci beaucoup, Christian Gattalou. Donc, ce colloque commencé ce matin se poursuit demain avec une première session sur l'océan et ses connexions, puis qu'est-ce que l'histoire globale avant une table ronde de clôture. On retrouvera notamment Sanjay Subramanian, dont vous avez parlé, mais aussi Gabor Soch et Yann Merkel. Colloque très international, donc en hommage à Brodel, 40 ans après sa mort. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay et Sorge Leroy.